Equinox Rock, la radio découverte.
Sur le vif, un autre regard sur les instantanés de la vie. Un regard qui se veut intense, mais également un peu léger, à un certain moment en tout cas. Ce que je propose, c'est au fond choisir un thème. Le sous-thème serait de choisir sa vie. En fait, il n'est jamais trop tard. Et donc, une série de chroniques, en quelque sorte, sur soi et la vie. L'émission comporterait, en fait, trois parties. La première partie serait « Soi et soi-même », un sacré débat, une sacrée exploration, peut-être la plus difficile. Deuxième partie serait « Soi et les autres », l'interaction, le contact avec les autres. Et enfin, la troisième partie, « Soi et la société ». Donc, une série de chroniques sur soi et la vie. L'idée de base, c'est que je pose certaines questions et d'une façon un peu provocative, dans certains cas en tout cas. La règle de base, c'est bien entendu de ne pas croire tout ce que je vais dire. Je n'ai pas la vérité, personne ne l'a. Ce que je vais partager avec vous, c'est certaines idées par rapport à soi et la vie, par rapport aux chroniques de la vie, à vous de choisir et de voir ce qui est réel pour vous, ce qui est adéquat pour vous et qui a une certaine résonance pour vous. L'idée de base, en fait, quelle est-elle? C'est un peu de réfléchir ensemble, et au-delà de réfléchir ensemble, c'est peut-être de s'étonner de certaines dimensions de la vie qui peuvent être, comme je l'ai dit au départ, à la fois intenses, mais également légères. L'émission 1 serait de gérer sa vie. Gérer, en quelque sorte, de se concentrer sur une problématique très importante, à savoir les choix. Avons-nous vraiment le choix? Avons-nous peut-être des choix? Et puis alors, dans une émission, par après, on parlerait des atouts pour la vie, etc., etc. Voilà donc en gros l'idée de base de cette espèce de reportage sur la vie qui se veut donc à la fois superficiel et profond. Les choix de la vie, voilà un sacré thème. A-t-on vraiment le choix? C'est une question, Guy, que je m'attends à recevoir de toi à la fin de ce petit passage. Je pense, je vais élaborer un peu d'abord, je pense qu'en fait on a des choix. Et on a beaucoup de choix. Dans un certain, une certaine gamme de choix, le problème c'est que dans beaucoup de cas, on a l'impression qu'on n'en a pas. On se sent piégé, on se sent bloqué. On ne vérifie pas cette hypothèse ou cette supposition de base qu'on a des choix. Ce que je voudrais faire de toute façon, au départ, c'est me concentrer sur la gestion des choix. N'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, en quelqu'un qui lit le journal d'aujourd'hui reçoit plus d'informations en lisant le journal qu'un paysan du Moyen-Âge dans toute sa vie. Donc, il est incontestable que les technologies nouvelles, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit l'Internet, que ce soit les journaux, également la télévision, nous donnent une information démultipliée et largement par rapport au passé. Gérer les choix, gérer ses choix. Laisse-moi partager avec toi une petite, avec les auditeurs, auditrices, une petite expérience scientifique sérieuse, très sérieuse. Et je vais te lancer un défi et te demander de répondre à une question que je vais poser à la fin, qui fait partie de l'expérience. Tu as deux bouteilles transparentes. Elles sont ouvertes toutes les deux. En dessous de chaque bouteille, tu as une lumière, une lampe de poche allumée. Dans la bouteille de gauche, tu as une abeille. Dans la bouteille de droite, tu as une mouche. Elles essaient toutes les deux de sortir de leur bouteille. La question que je vais poser maintenant, c'est, à ton avis, laquelle des deux, et à l'avis des auditeurs et auditrices, laquelle des deux, de l'abeille et de la mouche, va sortir en premier de la bouteille?
La question est assez épineuse.
Elle est scientifique.
Moi, ce qui m'interpelle toujours quand je vois une mouche qui essaie de sortir d'une pièce d'habitation et qui se colle invariablement à la vitre,
oui,
c'est que elle n'a pas l'intelligence pour se dire « mais si je contournais l'obstacle ?»
Oui.
Et peut-être que l'abeille a cette capacité-là à ne pas, comme une mouche, aller invariablement se coller sur une vitre et ne pas pouvoir en sortir parce qu'elle ne trouve pas d'autre solution.
Ton analyse est très bonne, très pointue, pertinente et pourtant fausse.
Oui, peut-être faudrait-il couper la lumière.
En laissant les lumières.
Allez, sans
allumer,
les lumières.
C'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais en laissant les lumières, l'abeille, figure-toi, va mourir dans la bouteille.
Ouais, peut-être.
Celle qui va s'en sortir, c'est une expérience scientifique. C'est la mouche. Pourquoi ?
Mais elles ne sortiront ni l'une ni l'autre, finalement.
Ah si, la mouche va sortir.
Ah, la mouche
va sortir. La mouche va sortir. Ce qui est passionnant dans l'expérience, c'est que l'abeille, et ton raisonnement était absolument pertinent, l'abeille est trop sophistiquée. L'abeille a appris que dans une situation pareille, pour survivre, il faut se diriger vers la lumière. Mmh. Et donc, elle n'arrête pas de se bloquer, de se heurter à la paroi de la bouteille et va mourir dans la bouteille.
Oui.
La mouche, beaucoup moins sophistiquée, la mouche repose plutôt, son comportement repose plutôt sur des instincts, ding, 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 out. La mouche va sortir de la bouteille sans savoir exactement ce qu'elle a fait. Ce qui est assez passionnant, parce que les leçons sont très fortes par rapport à la gestion de ses choix. L'abeille, il y a des moments dans la vie où il faut être abeille. Où il faut se réfléchir, il faut se concentrer, il faut analyser, il faut utiliser cette partie du cerveau qui nous permet de mieux comprendre une situation et d'en tirer éventuellement des leçons et surtout trouver des solutions aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Mais il y a des moments où l'instinct suffit. Il faut y aller en fonction de ses sentiments profonds, voire même de son intuition. Donc autrement dit, on ne peut pas dire que c'est l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il y a des moments, par rapport au choix de la vie, il y a des moments où il faudra être l'abeille, réfléchir et se dire « attention, je ne peux pas me lancer comme ça, tête baissée, il faut voir quel est le problème, pourquoi le problème, qu'est-ce que je peux faire ?» Mais il y a des moments aussi que dépenser trop de temps et d'énergie dans l'analyse d'un problème, on n'y arrivera pas. On ne va pas pouvoir en sortir.
En fond, si je comprends bien, il faut être moucheille ou abmouche. Autrement dit, oui. Une créature que n'a pas prévu le créateur.
Oui, mais oui et non. Il l'a prévu en quelque sorte, puisqu'on peut changer. On peut aussi vivre sur la base de ses intuitions et vivre sur la base de son analyse, de son intellectuel, de son intelligence en quelque sorte. Mm-hmm. Mais la grande leçon, quelle a-t-elle ? La grande leçon, c'est la suivante. Quel est le problème de l'abeille ? L'abeille n'a pas appris à désapprendre. Oh ! Or, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, toi et moi, les auditeurs, nous sommes dans un monde qui change énormément. Ce qui était bon hier n'est plus nécessairement bon aujourd'hui. Ce qui était valable hier ne l'est peut-être plus. Ce qui était efficace hier ne l'est peut-être plus. Donc il faut apprendre, non pas seulement à apprendre, mais il faut aussi apprendre à désapprendre.
Oui.
Et de faire alors le choix dans la gestion de ces choix de vie. Est-ce que je veux faire l'analyse et résoudre un problème d'une façon très logique, ou est-ce que j'y vais sur la base de mes intuitions ?
Mais crois-tu, Pierre, que nos concitoyens sont suffisamment lucides pour poser ces questions-là et ces choix-là en définitive ?
Tout à fait, mais intuitivement. La plupart du temps, les grandes solutions à nos gros problèmes, ils viennent de quoi ? Ils viennent finalement de l'intérieur, ils viennent de notre expérience qui a mûri en nous, ils viennent fondamentalement de notre intuition.
Mm-hmm.
C'est pas toujours... Bien sûr, moi je travaille parfois avec des PDG d'entreprise.
Mm-hmm.
Et ils me disent tous, pratiquement tous, je reçois les analyses, je reçois les rapports du marché, etc. etc. D'accord ? Mais l'étape ultime dans la prise de décision, elle repose sur mon intuition, sur mon flair, sur le fait que je ressens les choses. Il faut même ajouter une chose. Résumons. Il faut apprendre, bien sûr. Il faut que le cerveau fonctionne. Il faut apprendre à apprendre. C'est beaucoup plus fort. Apprendre à apprendre. Quelle que soit la situation demain, je serai armé, je serai prêt.
Et ce, dès l'école, en réalité.
Exactement. Ce qui pose d'énormes questions par rapport au système pédagogique de nos jours.
Tout à fait.
Comment prépare-t-on des enfants, des adolescents, pour un monde dont on ne connaît rien ?
Oui.
Trois, il faut savoir aussi, éventuellement, désapprendre l'abeille. Et enfin, et là je te lance un défi, serais-tu d'accord aussi qu'il faut savoir apprendre à dire non à l'apprentissage ? Qu'il y a des choses qu'on ne veut pas apprendre.
Pourquoi ? Parce que notre cerveau, à ce moment-là, aurait trop de choses à régler, trop de problèmes à régler, finalement, va se retrouver englué dans une masse de problématiques. Je pense, par exemple, que si nous ne mémorisons pas tout ce que nous vivons à tout moment, ce serait épouvantable si le cerveau devait à tout moment se souvenir de tout ce dont il doit se souvenir. Et donc, il y a un filtre quelque part, et donc un choix, une sélection.
Tout à fait. Tout à fait. Entre autres, on parle de nouvelles technologies. N'oublions pas qu'elles ont un impact considérable sur nos façons de penser et nos façons d'être. J'écoutais dernièrement une émission où un PDG d'une entreprise que je ne vais pas nommer, qui vend des téléphones portables, disait très bien lors de cette émission, vous devez vous rendre compte que le gadget que vous avez dans votre main, le smartphone, c'est pas un téléphone, c'est pas un outil de communication, pas du tout, c'est beaucoup plus que ça. C'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon d'agir, c'est une nouvelle façon de sentir, c'est une nouvelle façon d'être. Vous pouvez marcher dans la rue aujourd'hui et parler à vous-même, personne ne fera attention. Tout le monde croira vous parler à votre téléphone.
Précisément, Pierre, je te prends au bon. N'est-ce pas là une nouvelle forme d'esclavage ?
Oui, et ça pose toute la question de savoir quel type de rapport allons-nous avoir avec cette intelligence artificielle que nous avons inventée et qui nous dépasse maintenant. Qui nous dépasse. On ne va pas aller trop loin dans ce sujet.
Je suppose, Pierre, que précisément, ce sera l'occasion d'un débat sur d'autres questions dont tu souhaites nous entretenir. C'est peut-être le moment de passer une belle petite pause musicale. Tiens, est-ce que nous n'avons pas un nez quelque part de, par exemple, Maxime Le Forestier ? Parce que j'aimerais, après cette chanson, te poser une question justement sur le déterminisme.
Tout à fait.
Equinox.
Alors, d'en est quelque part, Pierre de Maxime Le Forestier, il nous dit que nous sommes conditionnés par l'endroit où nous naissons, par notre famille aussi, et que nous ne naissons pas tous égaux en droit. Alors, comment faire des choix dans ces conditions-là ?
C'est vrai, on est humain. Et le cerveau, apparemment, d'après ce que l'on sait aujourd'hui, le cerveau humain est ouvert à l'éducation, à la programmation. Donc on reçoit à travers l'éducation et l'expérience, on se programme. Et on ne s'auto-programme pas au départ. Les parents interviennent, l'éducation intervient. Donc, si tu veux, c'est vrai, on n'a pas, et la chanson est pertinente, on n'a pas tellement le choix au départ. Sauf que, instinctivement, certaines personnes rejetteront certaines choses, auront une passion pour autre chose. Il y aura donc des variations individuelles et des variations personnelles. Et qu'à un moment donné, il aura suffisamment de maturité et éventuellement de volonté, il faudra en parler, de la volonté, pour pouvoir choisir dans une gamme de choix, de possibilités, de voir qu'est-ce que je vais déclencher en moi, qu'est-ce que je vais activer en moi. Ça conduit à toute la notion du potentiel. On vit et on meurt sans savoir vraiment qui on est. Non, je voudrais réagir aussi sur l'égalité. Hein, tu parles de l'égalité des chances. Il n'y a qu'une seule égalité, en fait. Je viens de le dire. Ce n'est pas l'égalité des talents, etc. C'est l'égalité de la chance. De la chance. C'est ça la seule égalité.
Donc, être né dans une famille fortunée, disons, procure davantage de chance qu'une autre.
Non, eh bien non. On démontre par la recherche que tu peux naître dans un nid extraordinaire, une ambiance fabuleuse, tu as les meilleures études que tu puisses imaginer, et le facteur chance n'étant pas là, ça va mal tourner.
Ah bon ?
Tu vas subir des déceptions, tu vas subir des échecs. Et c'est assez fascinant de voir que certaines personnes ont plus de chance que d'autres. Napoléon Bonaparte, quand il devait nommer un maréchal, donner une promotion à un de ses généraux, il n'avait qu'une seule question, une seule. A-t-il de la chance ?
Bon.
C'est assez fascinant quand même.
Et le loto n'existait pas encore à l'époque.
Et le loto n'existait absolument pas. Mais la chance,
Mais est-ce qu'on ne la provoque pas la chance quelque part,
Pierre? Si. Moi, je crois franchement qu'on peut gérer, et là, on retombe dans la gestion des choix. Ici, on peut gérer l'environnement, les circonstances qui font qu'on aura plus de chances d'avoir de la chance que si on ne fait pas. Tiens, j'avais une citation de Hector Berlioz.
Oui, le grand musicien.
Exact. La chance d'avoir du talent ne suffit pas, dit-il. Il faut encore le talent d'avoir la chance.
Oui, c'est bien dit. C'est très bien dit. Mais moi, je me pose quand même des questions. On dit aujourd'hui qu'il est extrêmement difficile, par exemple, pour des enfants de milieux relativement modestes ou défavorisés, de pouvoir accéder à certaines fonctions importantes ou de réaliser sa vie d'une manière, comment dirais-je, en accédant, en gravissant des paliers de l'échelle sociale. Et alors que si on est dans une famille où il y a, je ne sais pas moi, bibliothèque, discothèque, ouverture sur les activités culturelles, sportives, où les parents ont la possibilité de conduire leurs enfants à tel endroit, etc., de leur faire découvrir des spectacles, de leur faire découvrir des expositions, ceux-là ont peut-être plus de chances que d'autres qui ont des parents qui ne peuvent pas, pour des raisons diverses, financières ou d'occupation ou autres, pouvoir le faire. Donc, on se trouve quand même dans une société assez hybride à ce niveau-là.
Mais à ça, on peut répondre, comme le font certains d'ailleurs, psychologues, sociologues, que celui qui est né avec tous ses avantages au départ aura peut-être de la paresse dans la vie. Il croira que tout est cuit, que tout est bon et que ça va arriver de toute façon. Alors que l'autre
va
se battre.
Ça peut être un piège. C'est tout à fait vrai.
Exactement.
Tout à fait vrai. Mais alors, à ce moment-là, l'école, l'éducation, est-ce qu'elle ne peut pas jouer ce rôle d'ascenseur social?
Je crois que l'éducation le fait. Je crois que dans beaucoup de pays, l'éducation permet... Mais laisse-moi te donner un exemple.
Oui.
Recherche. Dans les organisations, je suis certain que les auditeurs et auditrices vont travailler dans des organisations, secteur public, secteur privé. Une recherche a été effectuée sur la base d'une petite question. Faut-il être très pertinent, très intelligent et très performant pour avoir une belle carrière dans les organisations aujourd'hui? La réponse est absolument pas. La réponse, c'est en fait, parfois, si tu es trop performant, tu seras pénalisé. Parce que ton patron, ton chef, entre guillemets, dira, mais toi, tu restes où tu es, hein, j'ai besoin de toi. Besoin pour ma carrière. Alors, quelle est la réponse à la question? Que faut-il pour avoir une bonne carrière dans une institution, quelle qu'elle soit? Il faut deux choses, apparemment. Un, il faut surtout un bon réseau social.
C'est vrai.
Il faut que ceux qui ont du pouvoir...
Surtout aujourd'hui.
Hier aussi
peut-être.
Surtout
vrai, oui.
Ceux qui ont
un
du...
Un autre niveau, parce que peut-être que les sociétés étaient plus clivées autrefois. Il était difficile de
peut-être,
passer d'un
oui.
niveau à l'autre.
Oui.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus perméable, je dirais.
Oui, c'est exact. Mais ce qui est critique, c'est que les gens qui ont plus de pouvoir que toi et moi sachent que tu existes, que tu fais du bon travail, que tu peux les servir dans leurs ambitions personnelles, etc. Et puis alors, il y a le facteur chance. Être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes.
Mmh. Mais alors, tu parlais justement des nouvelles technologies et autres.
Oui.
Le fait d'être sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Est-ce que, voilà, ça fait partie aussi de ce carnet d'adresses, de ces possibilités de contact?
Tout à fait. Mais allons un peu plus loin, si tu le veux bien.
Oui.
L'impact des technologies sur les choix, sur la perception des choix, sur l'appréciation des choix est énorme, l'impact. Prends toi et moi, comme tout un chacun, nous sommes en train de nous débattre entre deux besoins fondamentaux. Je te pose la question. Si tu avais le choix entre sérénité et intensité, intensité dans la vie ou la sérénité dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Ah oui, je sais, tu vas dire les deux.
Non, je dirais la sérénité.
Alors, c'est exact.
Oui.
Mais attends, est-ce que ça ne se transforme pas et n'évolue pas en fonction de l'âge? Tu es jeune, tu as 20 ans, tu veux la sérénité, tu veux parler de ta pension?
Tout à fait d'accord avec toi, je dirais l'intensité à ce moment-là.
Tu veux l'intensité.
Et puis, à un moment donné, on se rend compte qu'on a besoin d'une certaine réflexion, de prendre du recul, etc. D'où la sérénité est un atout.
Tout à fait. Et même, tu arrives à la fin de ta vie, on y arrive tous, apparemment. Il faut encore définir la fin de sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'on se dit, au fond, finalement, une vie éternelle, ça pourrait être sympathique. Là. Mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est le suivant. Tu as 50 ans. Hein, il y a 50 ans d'ici, il y a 30 ans d'ici, il y a 20 ans d'ici. Quelle était ton espérance de vie à cette époque, il y a 50 ans?
65-70 ans.
Voilà. Aujourd'hui
85-90 ans, je dirais.
Donc tu as 50 ans. Tu as 20 ans devant toi, 30 ans devant toi. Tu te dis, tu veux aller à la pêche et rentrer chez Bobonne, entre guillemets, manger la soupe du soir. Non ! Tu veux encore vivre. Tu veux vivre avec beaucoup d'intensité.
C'est pour ça qu'on fait de la radio, d'ailleurs, Pierre.
Tout à fait.
Mais c'est vrai, mais j'ai envie de te relancer aussi sur un sujet qui m'a interpellé dans ton intervention tout à l'heure.
Oui.
Si tu permets que ne remplisse pas complètement le message que tu avais donné aux auditeurs, mais c'est intéressant aussi de rebondir sur des aspects de la réflexion que tu as initiée. C'est à propos des informations. Hein, tu disais, aujourd'hui nous avons une masse d'informations par rapport aux paysans d'il y a 50 ans, il fallait énormément de temps avant que les informations n'en arrivent, etc. Et d'un autre côté, on se rend compte, quand par exemple, moi je garde mes journaux sur le mois, et au cours du mois je me rends compte que tant de nouvelles sont vite démodées. Autrement dit, comme disait, je ne sais plus quel grand philosophe, mon journal est vieux ce matin, mais Homère, l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée, est incroyablement nouveau.
Tout à fait.
Alors justement, est-ce que cette surcharge d'informations ne nuit trop d'informations, tue l'information? On disait, il y a un spectacle, trop de Guy Béard, tu Guy Béard. Si on écoute continuellement tout le temps, par exemple, le même morceau, à un moment donné, on en vient dégoûté. Donc nous sommes des êtres, quelque part, comme disait Pascal, entre l'alpha et l'oméga, entre le rien et tout, donc nous sommes des êtres relatifs.
Tout à fait.
Et il faut, à ce moment-là, à travers cette relativité, trouver ce qui convient au bon moment.
Il faut choisir. On en revient au choix.
Ouais,
au choix. Ouais. Il faut choisir, mais tu as raison.
Mais tu ne trouves pas qu'il y a de la surinformation dans le monde d'aujourd'hui?
Il y a non seulement la surinformation.
Qui peut nuire justement à la sérénité d'aujourd'hui.
Énormément. Et non seulement ça, une abondance, surabondance d'informations, mais quel type d'informations aussi? Ouh, peut-on se fier à l'information que l'on reçoit aujourd'hui? Pas sûr. Mais je voudrais...
Les fake news, d'ailleurs, dont on parle souvent maintenant, sont là. Alors qu'il y a 50 ans, non, le journaliste était soucieux d'apporter la bonne information.
Tout à fait. Ce qui tue alors quelque chose d'essentiel.
Ici, on verse en sensationnel, hein,
oui,
à travers les fake news.
Et ça tue alors ce qui est fondamental dans notre vie collective, à savoir la confiance. Mmh. On n'a plus confiance. Mmh. Et la vie collective devient extrêmement, extrêmement difficile. On n'a plus confiance. Mais je voudrais rebondir sur un point que tu as soulevé déjà auparavant. La mémoire.
Oui.
La mémoire. Est-ce qu'il t'arrive parfois, toi, de te diriger vers une pièce et tu arrives dans la pièce et tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je viens chercher? Ça t'arrive?
Ça arrive, bien sûr.
Voilà. Mmh. Alors, je crois que ce qu'on constate de plus en plus, c'est que la mémoire est en train de se débarrasser. Le processus de mémorisation est en train de se débarrasser de certaines choses parce que des éléments technologiques, par exemple, je te donne un calcul à faire, tu prends ton téléphone, tu fais ton calcul, ça ira plus vite et ça sera plus fiable. Donc, tu te débarrasses, entre guillemets, d'une faculté de mémorisation, d'une faculté de calcul, en quelque sorte, parce que les technologies nouvelles le feront beaucoup mieux que toi.
Tout à fait.
Donc, tu prépares ton cerveau à faire d'autres choses.
Sur l'essentiel, on peut se concentrer sur l'essentiel.
Tu libères des réseaux peut-être de ton cerveau, peut-être. Hein. Mais attends, on va remplacer par quoi? Par quoi va-t-on remplacer cette mémoire qu'on avait pendant toute notre vie et dont on n'a plus besoin parce que les technologies font ça beaucoup mieux que nous? Par quoi va-t-on remplacer?
Peut-être par le vide. C'est un risque.
Ce qui nous amène de nouveau au partenariat avec l'intelligence artificielle. Mmh. Il faut nous réinventer. Et ça, le sujet d'un débat.
Eh oui, tout à fait. Mais tu parlais justement de quelqu'un qui vient dans une pièce et qui se demande, mais dans le fond, qu'est-ce que je viens y faire?
Oui.
Alors, nous sommes en période de solde. Et c'est une histoire qu'on raconte. Un gars qui sort avec un caddie bourré de soldes. Et puis qui se dit, mais dans le fond, qu'est-ce que je venais chercher, moi? Donc, il a oublié ce pourquoi Il était venu au magasin.
C'est typique.
Il s'est laissé prendre par les sols.
Absolument.
On a le même phénomène avec le dictionnaire. Autrefois,
oui.
On cherchait un mot dans le dictionnaire, oui. Mais il y a de magnifiques planches d'animaux, de drapeaux, de
oui.
ceci et de ça.
Oui.
Et on oublie ce pourquoi on avait envie de consulter le dictionnaire. Ce sont des expériences auxquelles on est tous et toutes confrontés. Mais alors, je pense que la mémoire, même si aujourd'hui, justement, on a énormément d'adjuvants, elle est quand même nécessaire. Moi, quand j'étais professeur, je faisais retenir par mes élèves à peu près 500 vers en français et une centaine de vers en latin et en grec. Alors, pourquoi pour justement pour exercer leur mémoire?
Ça fait encore ça?
C'est vraiment triste que ça ne se fasse plus. Parce que
sauf si on l'a remplacé par autre chose d'aussi pertinent.
Oui, mais non, parce que lorsque, par exemple, on est confronté à un problème quelconque,
oui.
Moi, si par exemple, je me dis, nom d'un chien, je parviens pas à sortir cette racine de mon jardin, eh ben, je me rappelle la phrase de Virgile qui disait dans ses Géorgiques, Improbus labor omnia vicit. Un travail acharné vient à bout de tout. Et je reprends ma pioche et reprends ma bêche, je dis j'y arriverai. Donc voilà par exemple des mots, des phrases, des vers, aussi bien au niveau de la nature, on me dit une mer mais je suis une tombe. Ah ben oui, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui en Australie il y a autant d'incendies. C'est pourquoi ? Parce que nous sommes tolérés à la surface du globe. Et donc cette manière d'être, la nature c'est beau, c'est les oiseaux, les trucs. Oui, mais il y a aussi tous les cataclysmes.
La nouvelle génération pense autrement. La nouvelle génération pense autrement. Les nouvelles générations sont beaucoup plus motivées par d'autres choses.
Oui, certainement.
Voient les enfants, voient les adolescents, voient avec leur téléphone, voient avec leurs ordinateurs. L'information, elle est là, elle n'est plus dans la mémoire.
Mais ça va être la querelle des anciens et des modernes entre nous, Pierre.
Tout à fait.
Qui a raison? Alors, je crois que c'est la musique qui a raison. Si on y allait avec un bon morceau de musique, alors Christophe a certainement quelque chose à nous mettre sur la platine, Pierre. Eh bien, bon, tu avais parlé de Mourir pour des idées,
voilà.
De Brassens. C'est une excellente chanson.
Ou l'autre. Vas-y.
Une autre, peut-être.
Oui, oui, une autre.
Que tu avais dans ta besace et que je ne connais pas.
Elle est prête, Christophe. Vas-y.
Voilà. Ça va être une surprise. C'est au petit bonheur la chance. Christophe va dans son alchimie musicale,
oui.
Et hop, ça va sortir. Le voici, les voilà. On y est. Dans un instant, c'est parti. Et nous sommes en excellente compagnie avec Pierre Casse pour son émission Sur le Vif, une émission que vous retrouvez dorénavant sur Equinox, la radio découverte, au moins une fois par mois, mais avec une rediffusion. Donc maintenant, le morceau est là, on y va. C'est parti, et puis on se retrouve pour un dernier entretien, Pierre.
D'accord, parfait.
Equinox.
Eh ben voilà, c'était Brassens et les petites gueules sympathiques des amoureux des bancs publics. Pourquoi as-tu choisi cette chanson, Pierre, des amoureux des bancs publics?
Parce qu'il y a un choix.
Ah.
Il y a un choix.
Pourtant, c'est pas un hasard, on se promène dans un parc, s'assied.
Mais il y a un jugement.
Et puis,
il y a une fille
qui vient s'asseoir à côté, ou le contraire.
Ouais. Oui, mais il y a un jugement qui est fait. Il y a le choix de « je vis ma vie et je me moque de la vie des autres ». Et il y a l'autre choix qui est « c'est tout à fait indécent, ça ne se fait pas ». Et c'est dans ce schéma-là, dans ce environnement, dans cet environnement que l'on vit.
Pourtant, c'est une chanson qui date des années 50. Hein.
Il était brillant.
Il était brillant, absolument. Mais je veux dire, donc autrement dit, cette espèce de ces conventions, etc., existaient déjà à ce moment... Dans les années 50, peut-être plus encore qu'aujourd'hui, fatalement.
Plus.
D'ailleurs, c'est aussi Brassens qui dit le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet, la musique qui marche au pas, ça ne me regarde pas.
Absolument.
Donc,
absolument.
C'est aussi un choix, la Pierre.
Très riche. Et c'est un choix. Le problème, c'est que très souvent, je crois, on fait des choix, tu fais des choix, je fais des choix, mais on n'est pas tout à fait conscient. Éventuellement des choix que l'on fait. On est guidé par les parents, on en parlait, l'éducation, les professeurs, par le patron. Combien de gens dans les organisations aujourd'hui, quelles qu'elles soient, vivent vraiment leur vie? Mon expérience, moi, dans les 20 années passées, c'est que beaucoup de gens ne vivent pas leur vie en fonction de leurs propres valeurs, en fonction de leur propre schéma. Ils vivent en fonction de ce que la culture d'entreprise leur dit, en fonction de ce que le patron leur dit, leur chef leur dit, etc. Et ils ne vivent pas leur vie.
Et pourquoi ? Parce qu'ils doivent gagner leur vie, tout simplement.
Oui. Mais parce qu'ils ne vérifient pas leur choix.
Mais ils n'ont pas transformé leur activité en passion.
Mais ils ont exact. Et ils ont peut-être beaucoup plus de choix à l'intérieur de l'organisation ou à l'extérieur qu'ils ne le pensent. Et donc ils arrivent, je suppose que tu es d'accord avec moi, il n'y a rien de pire que d'arriver à la fin de sa vie et de se dire, sacre nom, c'est pas la vie que je voulais.
Mmh, c'est vrai.
C'est un peu tard.
Mais comme on va vivre plus longtemps, on peut encore vivre une autre vie après et 65 ans.
Tout à fait, mais tout à fait.
Ou 67 maintenant, pour faire plaisir à nos dirigeants.
Tout à fait. Mais en parenthèse, si tu crois à la réincarnation, c'est pas trop grave.
Non, ça c'est vrai, évidemment.
Tu pourras avoir une autre chance.
Et il paraît qu'on nous promet aussi de belles rencontres dans l'éternité, Pierre.
Et qui sait ?
On a parlé de Brassens, ce serait un de mes grands plaisirs de le rencontrer dans l'éternité et de parler avec lui, c'est ton
chemin. Absolument. Mais quand on parle des choix, il y a un élément que toi et moi, on doit aborder quand même, c'est la frustration qu'ont beaucoup de gens par rapport aux choix qu'ils voudraient faire et qu'ils ne pensent pas pouvoir faire. Il n'y a rien de pire, serais-tu d'accord avec moi, qu'il n'y a rien de pire pour un homme et pour une femme de se sentir seul, de se sentir inutile, de se sentir dans un ennui total.
Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est pire que la mort.
C'est pire que la mort. Or, il y a des choix. Il y a des choix. Et des choix que toi et moi, et que l'homme de la rue, la femme de la rue, nous faisons tous. Ce qu'on appelle des solutions pour améliorer un peu quand même la tension de la vie. Quels sont ces choix ? Un, voilà ta réaction sur ça. Tu critiques. Par critiquer les autres, tu dis que les autres ont tort et toi que tu as raison.
Non, mais se critiquer soi-même, ça c'est la première des qualités.
On ne le fait pas.
Une autocritique, c'est fort important.
On ne le fait pas.
Bien sûr.
On ne le fait pas. On ne le fait pas, c'est douloureux. Mais c'est douloureux. Tandis que critiquer le gouvernement, le président, le pape, etc., ça veut dire que quoi ? Eux ont tort et que moi j'ai raison.
Ça c'est plus facile que de se mettre soi-même en question.
Tout à fait. Le problème, c'est que si tu n'arrêtes pas de critiquer les autres pour ce qui t'arrive à toi, il n'y aura plus personne autour de toi bientôt.
Bien sûr.
Deuxième, les fantasmes. Les fantasmes, la capacité que tout un chacun, tout un chacune a de reconstruire un événement qui était pénible dans ta vie de façon à ce que l'événement soit nettement plus agréable maintenant. Tu as une discussion avec ton patron, il est en colère sur toi, tu as fait une erreur, et il crie sur toi, il hurle même. Tu ne dis rien, tu es terrorisé, tu quittes le bureau, tu vas dans le bureau à côté chez ton copain et tu dis à ton copain, à ton ami, et je lui ai dit que son comportement était inacceptable. Tu n'as rien dit du tout. Tu reconstruis l'événement, tu reconstruis ta vie passée de façon telle à ce que ces événements qui n'étaient pas drôles, finalement, soient très bien. Et troisième élément moyen pour traiter la frustration au niveau des choix, ce sont les compensations. Manger, la gastronomie.
Ça, on connaît à Namur. Hein.
Dormir.
On connaît aussi.
Dormir. Boire.
Et savoir dormir. Oui. Parce que certains vous diront, ici même dans ce studio,
que
c'est pas toujours évident.
Il y a toutes sortes de compensations. Les femmes, en général, en ont
et
une superbe. L'achat, le shopping.
Ah, oui,
tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien. Hop. Tu vas, tu hop. Achètes. C'est très voilà, cher. Ça sert à rien. Le gars, ton chariot.
C'est la compensation. Et on peut compenser aussi en mangeant du chocolat, en fumant, en buvant de l'alcool.
Tout à fait. Mais tout à fait. Et ça n'a rien de mauvais en soi. En fait, ça permet de diminuer un peu la souffrance, éventuellement la tension.
Le stress qui est en toi.
Le stress, l'état pénible qu'on a. Mais je suis d'accord avec toi, il faudra y revenir dans une autre émission. L'autocritique, c'est fondamental.
C'est fondamental.
La capacité de remettre les choses en perspective.
Savoir examiner lucidement ce qu'on fait de bien, ce qu'on ne fait pas de bien, et être aussi, je vais dire, un adepte du discernement.
Ce qui n'est pas facile.
Voilà. Et donc savoir ce qui est bien dans nos vies, ce qui est bien pour moi, ce qui n'est pas bien pour moi. On en revient à la question du choix.
Du choix. Tout le temps le choix, absolument.
Tout à fait.
Et toi qui aimes la musique, j'aimerais quand même te lancer une petite citation d'un philosophe que tu connais très bien, de Nietzsche, qui disait « La vie sans la musique est une erreur ».
Ah oui. Et il y a Léopold II qui disait aussi, la musique, c'est du bruit qui coûte cher. Et mon ancien échevin des finances, quand je venais avec des propositions pour faire des groupes, etc., il me disait, non, un chien, ça fait cher la note, ça.
Tout à fait.
Voilà, mais il faut savoir sourire aussi des choses de la vie, Pierre.
Le sens de l'humour.
Le sens de l'humour.
Et comme disent nos amis britanniques, ouais, qui vont nous manquer, bien entendu, hein, il faut savoir croire en ce que l'on fait sans se prendre au sérieux.
Voilà. Eh bien, il y a une religieuse des sœurs de Notre-Dame, je dis bien, rue Julie Billard, qui venait d'Angleterre. Oui. Et c'était l'époque où les il n'y avait pas de classe mixte. Ce n'était que dédié aux filles, l'Institut Notre-Dame. Maintenant, il y a des garçons, des filles. Et elle était chargée de faire les rangs. Elle disait aux filles, rangez-vous, mettez-vous du côté de l'amour.
Excellent.
Voilà ce qu'est l'humour.
Excellent.
Hein, c'est quel humour, Pierre.
L'humour fondamental.
Et c'est fondamental.
Dans la vie de tout un chacun, toute une chacune, c'est fondamental.
Je crois qu'on a fait ensemble une très belle émission, Pierre. Et on va terminer. Moi, j'ai envie de te proposer peut-être une chanson de Suarez qui s'appelle « L'indécideur ».
Tout à fait.
Et c'est vrai que on est souvent mis, tu parlais du choix, dans sa vie face à des situations où on ne sait pas vraiment décider. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prier Sainte Rita, Saint Antoine ou,
non.
ou tous les saints et saints du paradis?
Non, pas du tout. Il faut faire la mouche.
Il faut faire la mouche, on en revient au début de notre émission. Voilà, c'est ça. Pourtant, l'abeille, c'est si beau l'abeille, Pierre.
Tu n'y arriveras pas.
Tu étais un adepte de l'abeille rouge. Je ne comprends pas comment tu la laisses tomber au profit de la mouche noire.
Je ne la laisse pas tomber. Je dis qu'il y a des moments dans la vie où il faut être abeille et il y a des moments dans la vie où il faut être mouche.
Voilà, ben, ce sera la conclusion de notre entretien, Pierre. Un grand merci, on se serre la main. À la prochaine, Pierre.
À la prochaine.
Et voici Suarez, la décideur.
Le site de la Radio Rock, equinoxnamur.be.
Eh bien voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir, énormément de plaisir à brasser toutes ces idées, un peu à gauche, à droite. C'était, je crois, très vivant et riche, et à la fois léger et sérieux. Et je crois que c'est un peu le moteur de cette émission. La prochaine émission se concentrera sur les atouts de la vie. On a parlé des choix, mais quels sont nos atouts? Et on va se concentrer alors sur trois éléments clés, à savoir l'énergie, la capacité de se mobiliser pour certains aspects de la vie ou dans certaines circonstances de la vie. La vitalité, l'énergie. Deux, la motivation. Qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui? Que savons-nous sur la motivation aujourd'hui? Et en quoi sommes-nous concernés, chacun et chacune, par la motivation? Et la troisième dimension, et celle-là, elle est capitale, c'est le pouvoir. Comment peut-on vivre sa vie sans un minimum de pouvoir? Je dis donc aux auditeurs et auditrices, j'espère que nous espérons les avoir stimulés dans leurs réflexions et je vous dis simplement au revoir.
Ça m'a fait un tout grand plaisir, Pierre, de faire cette première émission de Sur le Vif avec toi. Nous espérons te retrouver le plus souvent possible sur notre antenne et nous allons laisser peut-être à Bourville le dernier mot, si pas le dernier, un des derniers avec ce très beau morceau, les abeilles. Et pourquoi pas la bouche après? Eh oui!
Equinox, ça va vous changer de la radio. Changer de la radio.